média francophone public. RTBF.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérad.
Bonjour à tous et bienvenue. C'est déjà la dernière librairie francophone estivale de la saison, avec deux rencontres inédites exceptionnelles et une balade dans un lieu mythique de la mode. Voici le sommaire de cette neuvième étape. Dans un instant, on vous emmène donc dans un lieu culte. Nous avons ouvert les portes et les ateliers de la Maison Dior à Paris avec l'acteur Francis Huster qui, vous le verrez, a un lien tout particulier avec l'univers de Christian Dior. C'est une rencontre inédite à la radio et exclusive. L'académicien Dany Laferrière a invité Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie, pour une rencontre en public à Radio France. Nous avons rassemblé pour vous les meilleurs moments de cet événement. C'est une grande comédienne, artiste complète reconnue dans le monde entier qui sera sur notre plateau pour une autre rencontre inédite. Juliette Binoche, passionnée de poésie, a accepté un échange avec le poète Christian Bobin. Un échange un peu suspendu, plein d'humour et de délicatesse à ne pas manquer. Et puis nous avons passé tout l'été sans nos libraires. C'est leur grand retour aujourd'hui en préambule de la 14e saison de la librairie francophone qui commence la semaine prochaine. Trois libraires en Belgique, en Suisse et au Canada vous racontent leur rentrée littéraire.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérad.
Et on commence avec un nouvel épisode de notre série Un auteur, une ville. On part dans un lieu privilégié. Francis Huster nous ouvre les portes de la Maison Dior. Il est l'auteur du livre Et Dior crée à la femme aux éditions du Cherche Midi. Direction tout de suite l'avenue Montaigne, à proximité des Champs-Élysées et de la Tour Eiffel. Attendez, on passe un portique.
On passe un portique.
Voilà, avec, encore un bonjour. Bonjour, avec encore le portrait de
Le portrait de Dior, voilà, qui est, voilà, on dirait une star de cinéma.
Robe rouge, magnifique.
Voilà. Alors, tout est gris, tout est dans cette couleur.
Allez-y, Francis, je vous en prie, on va passer par cet ascenseur. On a vraiment les portes ouvertes de la Maison Dior. C'est exceptionnel de se retrouver comme ça dans ces différents lieux entre la rue de Marignan, l'avenue Montaigne. Alors vous racontez dans votre livre que vous alliez dans l'atelier de votre maman, Francis Huster, parce que vous êtes le fils d'une couturière. Ça se passait dans le quartier de la Bourse, quoi, pas très loin de la Comédie Française. Avant de faire les 400 coups avec votre copain Patrick Devers, parce que c'était votre copain d'école, eh bien vous alliez ensuite faire les devoirs.
Oui, c'est-à-dire j'allais dans son atelier de couture, qui était au 5 rue de la Banque, et je m'installais sur un haut tabouret, je m'en souviens, et il y avait cette fameuse une de ce Time, avec la photo sublime de Christian Dior. C'est comme une peinture, avec ses grands ciseaux, et moi je lui en voulais beaucoup à monsieur Christian Dior, monsieur Dior comme disait maman, parce que ma mère avait les mains tordues, tellement elle tenait ses énormes ciseaux, elle les mêmes. Elle faisait les patrons, comme on les appelait, là, sur des bouts de papier en marron.
Oh là 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 là.
Ça, c'est le paradis.
Voilà. Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Et alors, ça, c'est incroyable, parce que non seulement... Donc, il y a toutes les petites mains, comme on les appelait, qui sont là.
Alors, on a des mannequins qui sont accrochés avec des lumières un peu partout, des tables de travail, une robe jaune qui est à côté de nous, flamboyante, toujours ce gris présent, ce noir, ce blanc, le rose aussi. C'est un peu une ruche, et c'était déjà une ruche quand Christian Dior était là. Il voulait faire de cet endroit une véritable ruche.
Exactement, l'image de la Comédie Française, justement. Barrault, Jouvet, qui avaient travaillé aux Français, tous les deux, parlaient toujours comme c'est d'ailleurs la devise du Français. La ruche, voilà, de la ruche Dior. Ce qui est étonnant ici, c'est cette espèce de calme de... Il y a à peu près, oui, 80% d'ouvrières. Il y a des hommes aussi qui travaillent. Il y a une lumière. On voit les toits de Paris par la fenêtre.
Il y a une anecdote incroyable dans votre livre, Francis Huster. Dans les ateliers de la maison Dior où nous sommes actuellement, Christian Dior va créer une robe de soirée plutôt osée qui va être achetée par la rédactrice en chef du magazine Vogue aux États-Unis. Elle se dit qu'elle va faire sensation, que du coup elle va assurer une publicité magnifique pour Dior, mais ça ne se passe pas du tout comme ça.
Pas du tout, parce que quand elle va à sa soirée, on lui refuse l'entrée parce qu'on trouve la robe trop osée. Une autre anecdote, c'est que Brigitte Bardot, qui allait tourner un film de Pierre Gaspard VIII, La mariée est trop belle, qui est un film formidable, une comédie ravissante, elle voulait une robe de Christian Dior. Et Christian Dior a refusé parce qu'il a trouvé que c'était trop osé.
Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur.
Et il avait des stars absolument inouïes qui venaient ici. Il y a des souvenirs, il y a Ava Gardner qui est passé, il y a Lorraine Bacall qui a beaucoup fait aussi pour Dior.
Voilà. Vous voulez parler aux petites mains, Francis ?
Oh, j'ose pas.
Oui, je sens que... Oui.
Non, mais j'ai l'impression, tout d'un coup, c'est super sympa de venir là, parce que j'ai l'impression de rajeunir de 50 ans et de retrouver... Tiens, voilà, c'était un tabouret dans ce style-là. Il y a les mêmes ciseaux, hein. C'est absolument incroyable. Les patrons de ma maman.
Bonjour, madame.
Oh là là, combien d'heures de travail ?
C'est le brodeur qui l'a fait, je ne saurais vous dire. Mais beaucoup, au moins.
Beaucoup, hein.
200-250 heures facilement.
250 heures pour la coiffure, c'est extraordinaire. Non mais c'est justement, ça rejoint le théâtre. Nous aussi, ce sont des centaines d'heures de travail. C'est simple à la fois, c'est ça qui est beau, c'est comme le grand répertoire. Regardez les centaines de petites... Incroyable. C'est du théâtre. Moi, j'adore ça parce que
vous comparez Guitry d'ailleurs à Dior à propos des femmes. Enfin, vous comparez, vous les opposez parce que vous dites que Guitry, lui, s'attache au pire, alors que Dior aime la femme pour ce qu'elle a de meilleur.
Oui, Guitry nous fait rire des femmes alors que Dior nous les fait aimer. Guitry se moque des femmes alors que Dior se moque qu'on moque les femmes. Je crois que c'est peut-être parce qu'il était à part qu'il avait une vision de la femme beaucoup plus libre que celle de Guitry. Pour lui, la femme s'appartient à elle-même, alors que pour Guitry, elle appartient à l'homme. Mais chez Dior, il y a aussi de l'humour. Quand on regarde ici, rien ne pèse lourd, quoi. Rien n'est dans le trait souligné. Tout est...
Il y a une simplicité dans cet atelier, vraiment.
C'est ce qu'il y a de plus dur, d'être simple. Quand on joue du Racine, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est beaucoup plus dur Racine que de jouer des textes sculptés ou baroques. C'est ce qu'il y a de beau, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Barreau, Jouvet, Dior, c'est populaire. Et c'est pas péjoratif de dire qu'on est populaire. Au contraire.
Le théâtre, c'est votre refuge aujourd'hui, après être passé par le cinéma, des grands rôles, être passé par la télévision aussi, des moins grands rôles. Est-ce qu'aujourd'hui le théâtre, c'est votre refuge personnel ?
Le théâtre...
Comme cet atelier était le refuge de Dior.
Ben, je suis très heureux que vous me posiez cette question ici, parce que j'espère emporter jusqu'au bout ces petites parcelles d'âme qui sont si nécessaires quand on fait du théâtre ou quand on consacre sa vie à la haute couture, c'est d'avoir une haute idée, justement, des gens à qui on offre. Rien ne s'achète, contrairement à ce qu'on pense. Tout se donne. Et je crois qu'un artiste, aussi bien sur scène que dans un atelier, toutes les personnes qui sont ici sont des artistes. Il y a toujours une star dans une pièce, il y a toujours une star dans une distribution, mais il y a tous les autres. Je pense qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent que il n'y a pas tout d'un coup des gens qui sont désignés pour être au-dessus des autres. Il y a des gens qui sont désignés pour réussir leur vie parce qu'ils osent tout. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent osent tout. Je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu'un simplement qui essaye, tout à fait en dehors de mon vrai métier de comédien, d'expliquer que j'ai eu la chance d'avoir la main tendue, celle de Barreau, celle de Pierre Dux, celle de Shakespeare, de Molière. Ils m'ont tendu la main, puisque j'ai leurs textes qui m'ont porté haut. Et je voudrais que d'autres personnes puissent croire qu'un jour ou l'autre, quelqu'un vous tend la main. C'est pas possible de passer une vie sans que quelqu'un vous tende la main. Ne la laissez pas passer.
Merci beaucoup, Francis Huster.
C'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment. C'était un grand plaisir de vous retrouver ici pour ce livre. Et Dior créé à la femme, paru aux éditions du Cherche Midi. Voilà, on a une robe là magnifique qui est en train d'être assemblée. Merci, Francis.
Merci beaucoup. Beaucoup.
Et à suivre dans la librairie francophone estivale, le retour de nos libraires pour un décryptage de la rentrée littéraire. Qu'ont-ils repéré ? Ils vous donnent la primeur de leur coup de cœur, avec peut-être un petit coup de gueule. Avant cela, voici l'artiste de Nouvelle-Calédonie, Goulahan. Bel été à tous sur votre radio francophone. Hello ! Calédonien Goulahan avec Njengo sur France Inter, la RTBF, Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Et cette semaine, c'est le grand retour des libraires en avant-première dans la librairie francophone estivale, avant la reprise de la librairie francophone le week-end prochain. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Bonjour Jérémy Lagniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire au Canada à Rosemère dans la librairie Carcajou. Et c'est Dominique Bressoux qui représente la Suisse dans sa librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous tous les trois? Ça va?
Ben oui.
Oh, ça va très bien.
Ben oui.
On est en pleine rentrée.
Ben oui, alors là, c'est le rush, évidemment, comme on dit.
Ben voilà.
Un mot très francophone au passage. Alors allons-y, comment se passe cette rentrée littéraire dans vos pays respectifs? Quels sont vos coups de cœur et peut-être vos coups de gueule? Qui commence? Qui est volontaire?
Mais je peux me lancer. Hein, la rentrée,
Allez, voilà. Jérémy Lagniel, au Canada, allons-y.
Mais je me lance. Une rentrée littéraire, ben, mon premier coup de gueule, j'ai envie de dire, c'est la rentrée en général.
Là, ça commence
j'aime
par
pas les rentrées. Non, mais j'aime pas les rentrées.
Oui.
Je trouve ça ridicule de tout condenser en quelques mois, quelques semaines. Tous ces livres qu'on n'aura pas le temps de lire, qui n'auront pas le mérite, la lecture, l'attention méritée, alors que depuis avril, c'est à peu près le désert en librairie. Tout ce qu'on fait, c'est retourner des livres et vendre des formats poche, ce qui est fabuleux aussi. J'enlève rien, mais il y a là un marché qu'on prend pas. Bref, quand même, il y a d'excellents titres qui paraissent. Ouais. Cet automne.
Alors lesquels pour
en
vous?
Fin d'été. Bien, Tellement Louise et moi de Martine Delvaux. Ce sera publié chez Liotrope. Ça sort très prochainement. C'est vraiment un projet intéressant. Elle se met elle-même dans la bagnole de Tellement et Louise, ce film mythique. Mm-hmm. Et elle réfléchit à quel point Tellement et Louise sont deux figures qui ont vraiment hurlé en silence, qui ont, à une époque où les femmes étaient, où les femmes, où le viol était peu raconté, peu dit, peu vu, peu pointé.
D'accord.
Ce film a libéré quelque chose. C'est vraiment un texte très personnel, très fort.
Bien. On va aller en Belgique avec Déborah Damblon à Bruxelles. Qu'avez-vous repéré?
Mais d'abord, Déborah, moi, ce que j'ai envie de vous dire, Emmanuel, c'est que nous, la Belgique, on est un petit peu comme une petite France. Hein.
Ouais.
Enfin bon, c'est pas que j'ai envie de dire ça, mais en matière de librairie, chez nous, tout ça se passe un petit peu comme chez notre grand voisin. Alors, les trucs, ils arrivent en même temps, on est inondés par les mêmes choses. Et puis, soyons honnêtes, les lecteurs, ils attendent les mêmes titres et les mêmes auteurs qu'en France.
Ouais.
Parce que, vous devez savoir, Emmanuel, qu'en matière de lecture, le Belge, il est pas très très chauvin. Vous voyez, chez nous, l'argument, c'est un auteur belge, c'est pas forcément porteur.
Ah oui.
Malheureusement, je dirais.
Bon, pourtant, depuis le temps qu'on fait cette émission, généralement, les Belges suivent quand on invite des Belges.
Ah mais heureusement qu'il y a nous, Emmanuel.
Mais
Belgique, c'est pas un argument porteur.
On est tous Belges.
Donc, il faut absolument qu'on continue la librairie francophone, ne fût-ce que pour mettre les Belges à l'honneur.
Bon, alors, quels livres vous avez repérés? Quels vont être vos coups de cœur pour vos clients?
Parce que sinon, j'allais dire, dans la rentrée, soit on est noyé dans les titres français comme Amélie Nothomb, dont on a complètement oublié qu'elle était belge.
Vous allez dire
soit
qu'elle est
belge. Il y a des petits auteurs, vous voyez, comme Isabelle Wery, que je vous recommande absolument, qui est publiée chez On Lit, qui est une chouette petite maison d'édition belge, qui publie aussi Jacques Richard, qui publie des très très chouettes auteurs, et dont on n'entend pas assez parler, Emmanuel.
D'accord. Et ça vous énerve d'ailleurs? C'est un coup de gueule, ça, le Amélie Nothomb, qui sort tous les ans, à la même époque?
Non, ça c'est comme les marrons, hein. S'il n'y avait pas, je serais désespérée. Enfin,
ça, pas désespérée, mais ça fait mais vendre des livres, quoi, c'est ça?
Oui, et puis c'est rassurant, il y a des trucs, c'est rassurant.
Ouais.
Non, Amélie, on l'aime bien. Elle continue.
Dominique Bressou va vendre évidemment Amélie Nothomb en Suisse, et puis plein d'autres.
Bien sûr. Surtout que là, le personnage principal s'appelle Dominique, les prénoms épicènes, donc vous pensez bien que je ne vais pas louper ça.
Oui.
Mais en fait, en Suisse, c'est la rentrée littéraire, c'est en ce moment, franchement, c'est plutôt la rentrée scolaire. Donc nous, on est dans les cartons avec pour les collèges, pour les lycées, pour tout ça. Et puis, vous savez ce qu'on dit en Suisse, c'est qu'il n'y a pas le feu au lac. Donc, on n'est pas obligé de se dépêcher pour avoir tous les livres tout de suite. Et puis, on a plutôt tendance, les clients ont plutôt tendance à attendre les résultats des prix. Alors,
octobre, novembre,
ça fait. Voilà, et puis là, la rentrée littéraire suisse, proprement dite, c'est plutôt octobre, novembre, presque décembre.
Mmh.
C'est plus tard.
Alors, vous allez conseiller quel livre, Dominique? Il y en a bien un ou deux ou trois qui ont attiré votre attention.
Oui, bien sûr. Alors moi, il y a Pardon pour l'Amérique de Philippe Ramy, et c'est une édition posthume qui sort à la Table Ronde, et ça c'est fantastique. Mmh. Il y a aussi Carnaval Noir de Metin Arditi qui sort chez Grasset.
Le retour de Metin Arditi, oui.
Et voilà, le grand retour. Et puis moi, j'ai un grand coup de cœur pour une toute petite édition et puis une auteure qui est très peu connue, qui s'appelle La Terre Tremblante de Marie-Jeanne Urech. C'est chez Élie Sélas et c'est un conte écologique extrêmement original. C'est très 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 chouette à lire.
Bien. Et chez les Français qui sortent 560 romans cette année, avec cette rentrée littéraire très dense, est-ce qu'il y en a qui vont marcher particulièrement en librairie d'après vous? Vous avez des prédictions ou pas?
Moi, je vais pousser de toute façon Serge Joncourt parce que j'adore.
Serge Joncourt, d'accord.
Voilà.
Déborah Damblon, je vous sens réagir.
C'est la colle. Moi, je vais pousser chez les Français Antoine Wauters parce que c'est un éditeur français, un auteur belge et qu'on l'adore.
Bien. Et Jérémy Laniel?
Moi, il y en a un que j'ai lu, que j'ai adoré, mais je suis vendu à Jérôme Ferrari et son plus récent À son image chez Actes Sud est tout simplement splendide. Mais une auteure française qui publie en Suisse, j'ai bien hâte de lire le Elisa Choix du sapin chez Zoé, Les billes de Pachinko, c'est elle qui avait écrit Hiver à Surcouche que j'avais adoré. Donc, il n'est pas encore arrivé de ce côté-ci de l'Atlantique, mais j'ai bien hâte.
Merci beaucoup. Merci Déborah Damblon, Dominique Bressou, Jérémy Laniel. Bonne soirée ou bonne journée en Belgique, en Suisse et au Canada. On vous retrouve dans la librairie francophone à partir de la semaine prochaine et on ouvrira la saison à Morges en public au festival Le Livre sur les Quais avec vous Dominique Bressou.
Eh oui.
Vous êtes prête?
À la semaine prochaine.
Très bien. À la semaine prochaine. À suivre notre club francophone inédit autour de l'Académie française avec Daniela Ferrière qui invite Hélène Carrère d'Ancos, très rare à la radio. Avant cela, voici le duo franco-belge Aurel San et Stromae, La Pluie. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qui voulait être, ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau. vieux, où chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi, mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau.
Orelsan et Stromae, la pluie sur votre radio francophone, et on part à la maison de la radio en France pour une rencontre inédite et exclusive entre deux membres éminents de l'Académie française, un événement organisé lors de Radio France Fête le Livre.
Les médias francophones publics, RTBF.
Ici Radio-Canada,
France Inter.
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Bonjour à tous, bienvenue au studio 105 de la Maison de la Radio pour cette rencontre exceptionnelle et inédite. Une rencontre et un échange entre le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, et Daniela Ferrière de l'Académie française. Bonjour Hélène Carrère-Dancos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Daniela Ferrière.
Bonjour.
Comment allez-vous, Dani?
Mais ça va très bien puisque c'est la première fois que je suis en public avec Hélène Carrère-Dancos. Sinon, c'est à l'Académie française qu'on nous voit ensemble.
Exactement. Bon, merci d'être avec nous, en tout cas d'avoir accepté ce moment privilégié pour le public de nos antennes. La récente arrivée de Daniela Ferrière à l'Académie française a été vécue par beaucoup comme un moment historique. Un haïtien, canadien, qui entre à l'Académie en France, c'est un symbole de la francophonie, ça, Hélène Carrère-Dancos.
Mais évidemment, et l'Académie française, qui a commencé, je dirais, vraiment comme par être au cœur de la vie française quand Richelieu l'a créée en 1635. À l'époque, on ne pensait pas à la francophonie, mais après 4 siècles d'existence, elle ne peut pas rester complètement ancrée uniquement dans le sol français. La francophonie, c'est notre avenir, et l'Académie est très préoccupée de ça. Au fond, nous vivons à l'heure francophone depuis complètement, et un certain nombre de nos membres viennent de la francophonie. Je crois que c'est un projet qui est destiné à s'élargir. Parce qu'il n'y a pas de différence entre nous. Nous partageons la même vie, nous partageons la même conception. Nous sommes une même famille.
Daniela 1635, qui est une date, la date de l'Académie française, est aussi la date des premiers Français qui arrivent à Saint-Domingue. Exactement la même année. Je suis très heureux de le dire là, parce que j'avais oublié de l'écrire dans mon discours de réception, parce que c'est quelque chose, c'est un symbole qui est très fort. Au moment où les premiers Français arrivent à Saint-Domingue en 1635, eh bien l'Académie est fondée. Et là, voilà, me voilà dans cette académie.
Hélène Carrère-Dancausse, vous êtes vous-même docteur honoris causa de l'Université de Montréal.
Oui.
Membre associé aussi de l'Académie royale de Belgique. Et vous portez à vous seul, finalement, les valeurs du rassemblement, de l'échange francophone.
Oui, parce que je pense que c'est notre avenir, puis c'est notre destin. Nous avons la langue française, ce que nous avons en commun, c'est la langue française, elle nous appartient à tous. Et tous, nous l'enrichissons, nous la faisons vivre. Il n'y a pas qu'à Saint-Germain-des-Prés que la langue française, a dessiné son avenir. C'est tout ce que nous apportons, et le dictionnaire de l'Académie française, qui accueille beaucoup de mots de la francophonie, souvent même mots du Québec et tout ça, précisément parce que nous considérons que notre langue est vivante, notre culture est vivante, mais elle ne vit pas simplement dans un quadrilatère étroit de Paris, elle vit de tous les apports.
Et d'ailleurs, quand vous êtes entré à l'Académie française, il y avait Léopold Sédar Senghor. Il vous a accueilli, en quelque sorte, et vous l'avez connu, vous avez assisté aussi à son enterrement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été importantes pour vous à ce moment-là, avec le contact de Léopold Sédar Senghor.
Je vais vous dire, Léopold Sédar Senghor était un homme extraordinaire. Ça a été un des cinq pères de la francophonie. Donc, si vous voulez, il avait une vision de tout ce qui unissait son Afrique à lui, au reste du monde, au reste des pays où le français c'était la langue en partage, comme disait Maurice Druon. Ce qui fait qu'être à côté de Léopold Sédar Senghor était un privilège extraordinaire. Avec toute sa sagesse, il disait que quand je suis arrivé à l'Académie, il y avait une querelle, est-ce qu'il faut enseigner le latin et le grec? Et Senghor disait, en Afrique, les jeunes filles apprennent le grec, même si en France, elles ne l'apprennent plus. Il était très sévère là-dessus. Et donc, il nous apportait énormément. Alors, salut aux francophones.
Hélène Carrère-Dancausse et Dany Laferrière avec nous ici à Radio France. Dany Laferrière, que pouvez-vous dire de Hélène Carrère-Dancausse, du secrétaire perpétuel de l'Académie française? Comment vous la percevez, Hélène?
C'est une schizophrène. Oui, parce qu'elle a deux personnalités extrêmement tranchées. Et elle a cette personnalité avec laquelle je vis, puisque je suis membre de la commission du dictionnaire, qui est une commission à l'intérieur même de l'Académie. Le Saint des Saints, c'est un endroit extrêmement puissant où a régné pendant un moment le terrible Voltaire. Et elle est conviviale. Elle est extrêmement vive, elle négocie tout et elle recule devant la moindre objection. Vous lui dites non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Et puis il y a l'autre, Hélène Carrère-Dancausse, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, et qui peut être terrible à la grande séance. Il faut pas faire les fautes d'usage, il faut vraiment la moindre des choses. Qu'on a l'impression que ce n'est pas elle, c'est l'Académie elle-même qui, par elle, réagit et surveille le moins d'écart à tout ce qui se fait. Et puis, je dis schizophrène, qui donne l'impression de deux, mais trois personnalités. Il y a une autre aussi, c'est la mère de l'Académie, celle qui est soucieuse de tout le monde, le moindre petit nuage qui apparaît sur le visage de quelqu'un, et qui s'en approche avec délicatesse. Jamais elle vous questionne et qui, pour savoir un peu ce qui se passe, qui vous demande. Et ce que j'aime avec Hélène Carrère-Dancausse, c'est que quand vous entrez dans une maison qui est gorgée de symboles, de rituels, dont vous faites des fautes sans arrêt, jamais elle vous dira, elle vous laisse le temps de comprendre l'Académie et de rectifier. Si elle pense que cette faute est une habitude chez vous, elle pourrait vous le signaler, mais avec délicatesse. Et cela, même si d'autres membres lui disent « Oui, mais faites savoir à un tel qu'on fait pas ça », elle dit « Oui, je vais le faire, mais ne le fais jamais ». Elle croit dans quelque chose qui est au cœur même de l'Académie, qui est le temps. Et si on ne croit pas dans le temps, on ne peut pas être à l'Académie.
C'est très juste.
Oui, c'est vrai. Applaudissez, Dany Laferrière. Donc on apprend au passage quand même qu'il y a des académiciens qui rapportent, comme dans une classe, hein, parce que ils demandent qu'on gronde les autres. C'est vrai que vous dégagez comme ça une forme de force et de délicatesse réunie, Hélène Carrère-Dancausse. Vous êtes dans une autorité délicate.
Écoutez, je n'ai pas le sentiment de disposer. Non, j'ai le sentiment d'avoir un devoir, un devoir qui est de maintenir l'Académie telle qu'elle doit être à travers le temps, c'est-à-dire gardant un certain style, ce qui lui donne son autorité. Mais en même temps, je sais aussi que nous devons aller de l'avant. Et je remercie Dany parce qu'il fait partie de ceux qui contribuent à ça. Je sais que nous devons tous ensemble nous adapter. Et c'est très compliqué de jouer entre un temps présent qui est un temps de l'instant et une académie qui pense dans la longue durée. Mmh. Ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Mais vous savez, Dany disait que je garde les usages. Je vais vous raconter un incident qui va vous montrer qu'à l'académie, a parfois des moments très, je dirais, très folkloriques. Un académicien qui s'appelle François Weyergans, pour ne pas le nommer, oui, nouvellement élu, oui, qui est tout de même
belge,
accoutumier de certaines fantaisies, le jour de sa réception, s'est débrouillé pour arriver en retard. Et alors je dis, il s'est débrouillé parce que l'académie a une particularité. C'est la seule académie qui soit comme ça. Elle envoie des voitures à ses académiciens les jours où ils sont en costume pour leur faciliter la vie. Je lui ai envoyé une voiture 2 heures à l'avance en plein Paris, donc il n'y a pas de problème et on a vérifié qu'il n'y avait pas de drame. Bon, la séance solennelle, elle commence à 3 heures précises, pas à 3h01, pas à 3h02, les tambours battent à 3h. Pas de François Weyergans. Qu'est-ce qu'on fait? Jean d'Ormesson me dit épouvanté, il me dit qu'est-ce qu'on fait? Ben je dis on commence. On n'avait jamais vu ça qu'on commence sans le nouvel élu. Bon, c'est Éric Orsenna qui le recevait. Et Éric Orsenna, qui est imperturbable, il commence ce discours de réception tout à fait tranquillement. Et après quelques phrases, venait la phrase « Vous voilà, monsieur Weyergans ». Et à ce moment-là, François Weyergans, qui avait délibérément décidé de se faire remarquer, ça je suis sûr de ça, rentre. Et alors je dirais que la coupole qui contenait près de 400 invités, c'est un éclat de rire de 400 personnes.
Ah oui.
C'était vraiment... Alors, je dois dire qu'on s'est beaucoup amusé. Vous voyez ?
Et ce qu'elle fait chaque jeudi, et elle s'assoit à côté de moi à la commission de dictionnaire et me demande toujours « Comment ça va ? Êtes-vous heureux ?» Et j'ai dit « Oui ». Et elle me dit « Très bien ». C'était la bonne réponse. Et elle le fait. Et je vois défiler quand même, sans connaître son histoire personnelle. Nous sommes un cimetière, nous les humains. Nous avons une traînée de morts. Nous avons des cas de souffrance. Et je me rappelle d'ailleurs de cette phrase de ma mère qui pourrait lui ressembler et qui est aussi de cette courtoisie-là. Et comme ma mère souffrait beaucoup de maux de tête, et je lui dis... Et pourquoi tu ne prends pas une aspirine? Elle me dit, je garde cette petite douleur parce qu'elle m'épaille de penser à une plus grande. Il y a des gens comme ça qui sont toujours, qui se tiennent.
Ouais.
Et qui se tiennent, et ils n'ont pas moins de malheur que les autres, mais ils ont décidé de ne pas ajouter à la douleur du monde.
On dit un aspirine ou une aspirine?
On va voir ça jeudi prochain.
Bon, il y a des rituels à l'Académie française. Quels sont les rituels, Hélène Carrère-Dancos? Sur quoi faut-il être ferme, quoi qu'il advienne?
Alors, je vais vous dire sur quoi il faut être ferme. D'abord, sur la qualité de la langue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser aller. Et notamment en séance, pas les séances publiques, ça va de soi, mais les séances privées, c'est-à-dire le jeudi. Il est évident qu'il ne faut pas que les gens commencent à se... On ne se tape pas sur le ventre. On ne se tutoie pas, on ne dit pas « Hey, bébert !» Non, non, on dit « Monsieur » mais ou « Madame ». C'est très important parce que, si vous voulez, ça nous relie au passé. Ça nous relie à des usages qui sont immémoriaux et qui resteront au-delà. Alors que les modes font n'importe quoi et surtout que ça conduit à s'exprimer extrêmement mal.
Ce que les gens ignorent, c'est que parler bien, observer les usages, n'enlève rien de l'impertinence, de l'humour, de l'ironie. On peut garder tout cela et le faire avec discrétion.
Et avec élégance.
Avec élégance, ouais,
avec élégance. Alors, il y a des rituels, il y a une tenue à avoir, il y a aussi une forme de liberté, un souffle avec des nouveaux arrivants. Alors, Daniela Ferrière, bien sûr, je pense à Jean-Christophe Ruffin aussi, Daniel Salnave aussi, qui a une forme de liberté, de décontraction,
Éric
de simplicité.
Éric Orsenna.
J'en oublie, hein, il y a Jean-Loup Dabadie aussi.
Absolument.
Et ça, ça donne une autre image de l'Académie française. Parce que quand on les voit à l'extérieur, quand ils viennent chez nous, à la radio, sur nos chaînes, on les voit dans un contexte très généreux, très simple. Et ils transmettent ça aux auditeurs, d'ailleurs.
Écoutez, je vais vous donner encore un exemple. Notre doyen d'âge, René de Obaldia,
oui,
nous avons fêté son entrée, oui, dans la 100e année. Entre nous, il a soufflé ses bougies, hein, entre 2 séances de travail avec nous. Et bon, ben, René de Obaldia, je dis toujours, c'est le galopin de l'Académie.
Oui.
Et c'est la vérité.
C'est vrai.
C'est ça l'Académie, oui, elle est gaie.
Merci beaucoup Hélène Carrère-Dancos, Daniela Ferrière. Votre dernier ouvrage, donc, Hélène Carrère-Dancos, Le Général de Gaulle et la Russie, est paru chez Fayard. Daniela Ferrière, toute votre œuvre est parue chez Grasset et chez Zulma.
Dany Laferrière et Hélène Carrère-Dancos, une rencontre organisée pour Radio France Fête le Livre, un événement Radio France auquel la librairie francophone s'associe chaque année, comme le Salon du Livre de Montréal, la Foire du Livre de Bruxelles ou encore le Salon du Livre de Genève. Radio France Fête le Livre, ce sera les 24 et 25 novembre prochains et nous y serons pour une émission en public avec la librairie francophone. Voici à présent Jacob Salem pour un titre acoustique dans notre studio, en duo avec le Suisse Sam Kieta.
Mdatum pusum zame.
Le Burkinabé Jacob Salem et le Suisse Sam Kieta avec Nan Luli en version acoustique dans les studios de la librairie francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Quéral.
Juliette Binoche et Christian Bobin sont dans la librairie pour une rencontre inédite autour de la poésie. Juliette Binoche, on a organisé cette rencontre à la radio car on m'a dit un jour que vous aimiez Christian Bobin et que dans le cadre des rencontres que nous provoquons entre artistes et écrivains, ce serait parfait. On vous l'a proposé, vous êtes là. Christian Bobin est là aussi, c'est juste formidable, c'est la magie de la radio et la magie aussi de votre générosité. Qu'est-ce que vous aimez dans l'œuvre de Bobin, vous, Juliette ?
Ben, c'est la poésie. C'est pas Christian que j'aime spécialement, c'est la poésie, c'est-à-dire comment mettre des mots ensemble pour créer un univers et une vérité qui sort d'un être qui vit et qui a pas peur de ses ombres, qui a pas peur de ses soleils, qui est. Mais j'avais demandé d'ailleurs il y a longtemps, parce qu'on m'a proposé de faire des interviews avec des personnes. J'avais fait un spécial Libé. J'avais demandé de faire une interview avec vous. Et puis, vous aviez
il a
pas répondu, donc j'ai demandé à Nick de Souzenel finalement. Et on s'est rencontrés, c'était génial et on est devenus proches.
Il n'est pas mais facile, donc, Christian.
Mais c'est pas grave. C'est après, pas quand on s'est vu chez Frédéric, je crois qu'on m'avait dit, ah, mais si j'avais su, ah, ben si j'avais su.
C'est vrai. Incroyable. Bon, il parle beaucoup de l'enfance, Christian Bobin.
Oui, bah oui. Bah,
ça vous dérange ou ça vous soulage?
Ah, bah, on est fait de ça. Non, on est fait de ça. Moi, je parle que de ça à travers mes films. C'est la matière première, c'est la matière qui n'a pas encore toutes les protections. Mmh. Donc, ces premières émotions, ces premiers conflits, ces premières prises de conscience qui deviennent très inconscientes après, elles sont l'essence même de qui on est. Et il va falloir toute une vie pour un petit peu démêler tout ça. Et c'est certainement pour ça que l'écriture de Christian Bobin me touche aussi. Ouais. C'est qu'il y a une relation à la nature, au vent, à la lumière, et aux émotions premières de la vie. Je crois que c'est ce qui fait que... En fait, je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé à lire les poèmes, au collège...
Très tard, hein, vous l'avez confié ça, hein, avoir appris la langue et la lecture très tard.
Ça n'arrivait pas à rentrer dedans, en fait. Je n'arrivais pas à être en relation avec. Et pourtant, ma mère était mon prof de français. J'ai adoré Rimbaud quand même. On apprenait un poème par semaine. Donc...
Mais vous n'aimiez pas, à l'origine?
Non, ce n'est pas que je n'aimais pas, c'est que je n'arrivais pas à rentrer en contact. Ouais, ouais. C'est une autre histoire, ça. Et en fait, c'est Anki Kror, qui est un poète d'Afrique du Sud, qui je devais jouer un peu son rôle dans un film. Et,
In My Country. Et,
In My Country, exactement. Et elle m'a lu sa poésie. Elle m'a dit, d'abord, je vais te faire visiter The Little Karoo, qui est la région d'Afrique du Sud où elle a vécu, qu'elle a décrit dans ses livres. Et on est parti en voyage pendant une dizaine de jours, en montrant des régions différentes. Et à un moment donné, dans la voiture, on s'est arrêté. Elle a ouvert son livre. D'ailleurs, je lui ai demandé, et elle m'a lu ses poèmes. Et là, c'est pour moi, ça a été vraiment une invitation au voyage et une initiation, en fait, à la poésie. Comme si les mots rentraient dans mon sang.
Ouais. Christian Bobin, alors vous avez dit être captif très tôt, dès l'enfance. Alors l'inverse hein, de Juliette Binoche, vous étiez tout de suite dans les livres, tout petit.
Oui, mais je rejoins ce qui vient d'être dit aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je trouvais dans les livres? Je trouvais... ce que l'imprimeur, ni même l'éditeur, n'avait pensé y mettre. C'est-à-dire, j'y trouvais le grand vent de la vie. J'y trouvais la nature entière. Je crois que la poésie, ce qu'on appelle la poésie, elle a mis ça à peu près comme Dieu. C'est infréquentable à peu près comme Dieu, et c'est aussi nécessaire et vital. Et c'est pratiquement impossible à définir, ou alors il faut multiplier les définitions, ce qui revient à n'en avoir aucune. Celle que je donnerai aujourd'hui, sur l'instant, devant vous, avec vous, c'est une parole. C'est une parole qui vous arrête, presque comme un gendarme met la main sur votre épaule, voyez ? Et c'est une parole souvent très simple, c'est comme une fraternité qui naît dans l'instant, qui surgit et qui apparaît dans l'instant.
Il paraît que vous lisez René Char avant de dormir, Juliette Binoche, l'Iranien Rumi, ou encore Christian Bobin. À chaque fois, le soir, vous lisez un peu.
Moi, j'aime lire, mais vous savez, je vis des périodes très différentes parce que ma vie, c'est des vents très différents, donc c'est jamais pareil. Mais ça m'arrive d'avoir des périodes comme ça où j'ai besoin de me nourrir, tout simplement, de nourrir mon âme, parce que sinon, si on fait tout le temps, le quotidien peut nous dessécher, franchement. Et donc, ça permet, en fait, de faire couler l'eau en nous.
Vous vous rendez compte, Christian Bobin, vous êtes dans la chambre de Juliette Binoche, quasiment tous les soirs. Vous avez écrit dans ce recueil, le dernier, « La vie est un jeu où il s'agit d'approcher au plus près de soi sans s'en apercevoir ». C'est ce que dit Juliette d'ailleurs, ça. S'approcher de soi.
Oui, et les livres et l'écriture nous aident beaucoup pour ça, beaucoup. On dit parfois qu'un livre parle, mais moi, sans doute. Mais je dirais plus profondément, un vrai livre, un livre vivant, c'est un livre qui nous écoute, qui sait nous entendre, qui en nous entendant éveille une partie de nous qui était morte ou plutôt dormante. Il y a une phrase que ma tête est un petit peu poreuse et je sais très peu de choses par cœur, mais il y a une phrase du poète russe Mandelstam qui est mort en 1938 dans un camp, que tout le monde entendra et tout le monde peut-être en l'entendant comprendra que la poésie est une chose fraternelle, élémentaire et un bien commun, au même titre que l'air ou que l'eau ou le feu. Les fleurs, dit-il, parlant d'un pré en fleuri, extrêmement fleuri, coloré, les fleurs se passaient du feu les unes aux autres comme de vieilles connaissances. Mmh. Il met simplement les mots qu'il faut sur quelque chose qui était orphelin en nous, un sentiment qu'on avait mais qui était orphelin de ne pas être exprimé. Ces gens-là, ce qu'on appelle les poètes, portent assistance à personne en danger, c'est-à-dire à chacun. Mmh.
Et alors du coup, vous, vous voyagez à travers la lecture, à travers les poètes, vous reconnaissez Christian Bobin être très casanier, vous n'aimez pas les voyages, vous êtes à l'opposé de Juliette Binoche qui a parcouru le monde pour ses tournages.
Qui vous dit que jamais voyage? J'ai mon métier, mais les voyages... Bon,
vous venez du Japon, vous allez partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Pourquoi vous ne voulez pas voyager, Christian Bobin? Dans Un bruit de balançoire, vous dites même qu'un véritable ami est celui qui vous évite le voyage.
Qu'il ne vous en veut pas si vous déclinez son invitation.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ? Parce que j'ai une infirmité, entre autres, qui consiste à, dès que je fais un pas dehors, je suis complètement stupéfait par ce que je vois. Stupéfait. Un exemple, si vous voulez. Je vais prendre une chose très commune, mais qu'on peut trouver en Asie, qu'on peut trouver aux États-Unis et qu'on peut trouver dans ma forêt. Oui. C'est un moineau qui boit dans une flaque d'eau, vous voyez? Oui. Vous voyez la petite balançoire en corne de son bec, comme ça?
Je vois très bien, j'adore les moineaux.
Voilà. Oui. Gloire à eux, gloire à eux. Eh bien, ce mouvement de balançoire du bec, quand vous l'observez, et quand vous voyez qu'il picore une flaque d'eau qui est imprimée de nuages ou de ciel, il fait jaillir beaucoup plus de gouttes qu'il n'a besoin.
Oui.
Et l'ascension de ces gouttes d'eau et le fait qu'elles retombent souvent hors de la flaque, pour moi, c'est la vie même. C'est-à-dire c'est juste une montée en lumière un peu plus forte que le besoin qu'on a tous, quel que soit ce besoin d'ailleurs. Vous voyez, cet excès-là.
C'est ça le voyage.
Alors si vous voyez un moineau comme ça, vous vous rendez compte, c'est pas la peine d'aller au bout du monde.
Oui, mais
Vous y êtes.
On peut aller voir les moineaux au Japon, vous par exemple.
En fait, ils ont la même histoire.
Oui.
Et c'est beau de voir que partout dans le monde, on a les mêmes histoires.
C'est vrai. Vous écrivez, le plus long voyage que j'ai fait, c'était dans les yeux d'un chat. Christian Bobin va très très loin. Juliette Binoche, qu'avez-vous appris des voyages? Qu'en avez-vous rapporté? Alors, la poésie déjà, parce que ça vient d'Afrique du Sud, votre passion pour la poésie.
Mais je me souviens, j'avais été, après un film, j'avais été voir mon père qui habitait en Colombie. Voilà. Et je pensais que j'allais faire un voyage absolument fabuleux. D'abord parce que ma sœur, qui l'avait fait 2 ans avant moi, m'avait rapporté ce voyage extraordinaire qu'elle avait fait. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que d'abord, mon père était occupé à autre chose. Et donc, j'ai commencé à aller à la librairie française à Bogota et j'ai acheté à peu près 20aine de livres que j'ai lus en 3 semaines, parce que tout d'un coup, j'avais besoin de ce voyage-là. Et c'est en me rendant compte, en fait, loin de chez moi, que j'avais besoin d'un voyage intérieur plus qu'un voyage extérieur. Moi, j'aime pas voyager parce que je voyage trop et que c'est surtout les valises que je supporte. Mais d'aller voir des Japonais, par exemple, la façon dont ils vivent, la façon dont ils se communiquent, le rapport qu'ils ont aux objets, au silence, au moment, ça c'est une chose inouïe de voir d'autres traditions et d'autres peuples, d'autres façons de vivre qui peut nous apporter vraiment quelque chose.
Oui, le rapport à l'autre, c'est ça.
Le rapport à l'autre,
Juliette.
Oui. Et Christian... ça nous met forcément en question.
Oui. Christian Bobin, vous êtes d'accord avec Juliette Binoche sur le rapport à l'autre? Vous n'avez pas besoin, vous, d'aller à la rencontre de l'autre?
Ah, mais sans arrêt.
Oui, mais à travers les livres, Christian, ça limite les choses.
Non, mais c'est vrai. C'est l'illimité, les livres.
Et c'est moi qui vous le dis, j'en lis toutes les semaines.
Oui, mais vous allumez des pétards sous votre chaise. Non, un livre, c'est l'infini même. L'avantage de peu bouger comme je fais en même temps, c'est que les moments où quand même, parfois, vous bougez, à ce moment-là, vous avez une intensité de vie et de vue qui est incroyable. Un grain de blé, si vous voulez, devient une centrale atomique, vous voyez?
Pour vous, Christian, oui, pas pour tout le monde.
En le transformant dans le livre, en l'écrivant, peut-être que ce sera pour vous aussi. Peut-être que mes livres, au fond, sont comme des billets de voyage, au fond.
Oui, Juliette Binoche.
Oui, je suis d'accord. Un livre, c'est un voyage intérieur.
Merci beaucoup Juliette. On va terminer avec cette phrase de Christian Bobin. L'idéal, ce serait de pouvoir habiter un nid d'oiseaux. Vous êtes chez vous, à l'abri, mais en plein air, exposé à tous les vents. Voilà qui résume la pensée de Christian Bobin. Merci à vous Christian. Un bruit de balançoire est paru aux éditions Iconoclaste. Merci Juliette Binoche. Merci. C'est vraiment un grand honneur que vous avez fait à la librairie francophone, tous les deux. Comme ça, dans la générosité absolue, je tiens à le souligner parce que c'est très rare dans ce métier. Et on est fiers de faire ce métier quand on assiste à ce genre de rencontres spontanées, bienveillante et généreuse. Merci Juliette Merci. Binoche. Merci, Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la rédaction, mon fidèle collaborateur Jean-Philippe Véret de France Inter en France, de retour de vacances tout bronzé, avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Étienne Bertin, pas bronzé du tout, il a travaillé avec moi tout l'été, avec Elisabeth Collet. Merci d'avoir écouté cette deuxième saison de la librairie francophone estivale. C'était un immense plaisir et un grand honneur de vous accompagner cet été. La semaine prochaine, c'est le retour de la librairie francophone classique, comme on dit maintenant. Nous serons à Morges, en Suisse, au festival Le Livre sur les Quais, avec plein de surprises, plein de fidèles auteurs pour leur grand retour, et vous, je l'espère, toujours plus nombreux à nous suivre. Merci pour votre fidélité, nous faisons ces émissions en pensant à vous chaque instant. On compte donc sur vous, je vous souhaite la meilleure rentrée possible. À bientôt, salut.